Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Maya l'abeille. C'est un dessin animé qui a bercé l'enfance de beaucoup, beaucoup d'entre nous. Hein. La petite Maya. Pourquoi on entend Maya l'abeille? Parce que dans un instant, on va parler des plantes mellifères, les amis. Eh oui, comment attirer toutes ces plantes qui peuvent faire venir des insectes pollinisateurs? On va en parler dans un instant. Mais auparavant, c'est Jean-François qui nous attend au 32-16 et qui voulait réagir justement sur le potager. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour à vous deux.
Bonjour. Bienvenue Jean-François. On vous écoute.
On vous écoute. Oui, j'ai posé une petite question. Là, j'ai un jardin potager et je suis envahi de... et les jardins d'à côté, on est envahi par des petites araignées qui ont un abdomen blanc, des araignées minuscules. Donc, je sais pas comment les traiter, s'il faut les traiter ou pas. J'ai essayé avec du marc café, mais rien n'y fait.
Vous voulez que je gueule encore comme ce matin de... Arrêtez de croire des inepties du genre le marc de café, les coquilles d'œufs, je sais pas trop quoi encore, qui vont miraculeusement faire éloigner des insectes ou des animaux qu'on n'a pas envie, comme les araignées. Le marc de café, c'est un produit organique qui, lorsque vous l'incorporez au sol, apporte un peu de potasse ou peut également apporter, quand il est bien décomposé, un petit peu d'humus. On a tendance, dirons-nous, à le mettre sur le tas de compost. Ça apporte quasiment rien, quoi, on va dire. Bon. Mais il y a une sorte de mythe autour de ça. Donc, voilà. Mais en tous les cas, les araignées, elles sont contre-fiches et vous avez pu d'ailleurs le remarquer. Bon. Les araignées, il faut le savoir qu'en dépit de l'aspect, entre guillemets, repoussant que certains leur trouvent, sont des animaux, ce ne sont pas des insectes, mais ce sont des arthropodes qui ont 8 pattes, les insectes ayant 6 pattes, qui sont extrêmement utiles dans l'environnement, parce que ce sont pour la plupart des prédateurs. Donc, les araignées que vous avez là sont en train, naturellement, de réguler, on va dire, certaines populations d'insectes, qui sont bien entendu des insectes à leur taille, mais que vous ne voyez pas forcément, mais qui pourraient, pour certains, être nuisibles aux cultures, et notamment peut-être consommer des pontes ou des petites larves et des choses comme ça. Alors, la raison de la prolifération, j'en sais strictement rien, mais généralement, la logique veut que les populations s'équilibrent. Ça veut dire que si vous avez énormément d'araignées, c'est qu'il y a énormément de proies. Et donc, elles sont en train de, entre guillemets, de nettoyer votre jardin. Et tant que ces araignées ne vous semblent pas agressives, et il n'y a aucune raison, parce que plus l'araignée est petite, et plus c'est ce qu'on appelle chélicère, c'est-à-dire c'est les parties qui pourraient éventuellement perforer votre peau, si elle voulait vous mordre, eh bien, ces chélicères sont toutes petites et elles n'ont pas la puissance nécessaire pour venir vous faire du mal. Donc, elles sont inoffensives et hormis, encore une fois, l'aspect que l'on craint quand on observe cela, parce qu'on dit, les araignées, elles sont plutôt utiles à votre jardin. Donc, laissez faire la nature. De toute façon, leur population diminuera d'elle-même lorsque l'équilibre se sera produit. Et si vous n'êtes pas le seul à avoir ces araignées, c'est qu'il y a des raisons écologiques pour que vous ayez une concentration de cette espèce-là dans votre environnement. Donc voilà. Après, faut être honnête aussi, c'est pas que je voulais tourner autour du pot, on vous raconte tout ça, mais on n'a pas aujourd'hui de produits réellement efficaces et prévus pour éliminer ce type d'indésirable, si je puis dire. Parce qu'en fait, à la fois notre regard a changé, mais aussi la législation a évolué, et donc on n'a pas la possibilité de
traiter
un acaricide, par exemple, pour le jardinage d'amateur.
Alors il y a Serge qui dit tisane de tabac pour les araignées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Alors la tisane de tabac est quelque chose de totalement interdit.
Ah oui.
la nicotine, alors ça aussi c'est un truc extraordinaire, la nicotine qui est un poison extrêmement toxique quand on prend la nicotine pure. Je vous rappelle, ça a été un des tout premiers insecticides qui était homologué dans les années 70 à être interdit à cause de la dangerosité. Donc le fait de faire tremper des mégots et effectivement d'obtenir une solution qui, lorsqu'elle est notamment pulvérisée sur des pucerons ou des insectes que vous voyez, est très efficace, ça les ratatine, c'est dangereux. Et donc, vous avez normalement, évidemment, moi je vous dis ce qui est,
oui, bien sûr,
ce qu'il faut faire,
la loi, hein.
C'est interdit. La nicotine est interdite. Après, ne confondons pas non plus les insecticides avec les acaricides. Alors, je pense que la nicotine, ça serait efficace. Mais je préférerais que notre auditeur respecte les araignées, parce que je pense qu'elles ont une utilité. Il y en a énormément qui vivent dans le sol, plutôt que de se dire, allez, hop, on repart à l'éradication à l'ancienne.
Parfait. 32-16 pour toutes vos questions, Jardin. Tout comme Jean-François qu'on a eu à l'instant, vous pouvez joindre Patrick Miolan pour parler, pourquoi pas, des plantes mellifères, hein, puisque ça va être notre sujet qu'on va aborder dans un instant. Mais auparavant, notre jeu, parce qu'aujourd'hui sur RMC, je vous offre, écoutez bien, un barbecue Beef Butler Smoker.
Waouh.
On jardine le matin, et la récompense, c'est le barbecue pour midi.
Et smoker, ça veut dire qu'il est fumoir ?
Et j'en ai bien peur. Grille de charbon de bois.
Oui.
Facile d'utilisation et pratique. Vous pourrez vous faire plaisir pendant les beaux jours. Écoutez, j'ai vu la photo, il est très bien parce qu'en plus, il a une espèce de support où on peut poser les ingrédients qu'on est en train de... Voilà. Donc, c'est un beau cadeau que nous vous offrons. Ce Beef Butler Smoker, donc, vous pouvez le remporter en nous envoyant dès maintenant le mot jardin par SMS au 732-16. Vous tapez jardin sur votre mobile. Vous envoyez ça au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. Jardin au 732-16. Bonne chance.
Votre jardin sur RMC avec Mano Mano, la référence européenne du bricolage et du jardinage en ligne.
Les abeilles.
Là, on a sorti le top 50 des abeilles sur RMC. On fait le buzz. Après Maya, c'est Bourville avec les abeilles. Et oui, on va parler donc maintenant des plantes mellifères. C'est vrai que depuis quelques années, on constate une pénurie d'insectes pollinisateurs. Hein, Patrick, les jardiniers peuvent largement contribuer à favoriser leur présence en semant ou en plantant des espèces dites, écoutez bien, mellifères.
Oui,
c'est comme ça qu'on dit. Hein.
Oui, on dit des plantes mellifères. Alors, ce ne sont pas des plantes qui fabriquent du miel. Hein. Je vous rappelle que ce sont les abeilles. Alors, c'est quoi une plante mellifère ? C'est une plante qui, grâce alors, principalement à ses fleurs, mais il faut savoir quand même que certaines ont des bourgeons ou même le pétiole de leurs feuilles qui produisent du nectar. Et les fleurs uniquement du pollen, puisque le pollen, je rappelle, est la substance mâle fertilisante pour la plante. Donc, lorsque vous avez des fleurs qui produisent ces deux substances en quantité suffisante et accessible, parce que ce n'est pas toujours le cas, pour les abeilles et plus largement pour les insectes pollinisateurs, qui sont notamment aussi les bourdons, même les papillons aussi, eh bien, on va considérer que ce sont des plantes qui favorisent la fabrication de miel par les abeilles. Donc, du coup, mellifères. Et puis, attention, on peut aussi considérer comme mellifères des plantes qui sont très sensibles aux attaques de pucerons, de psylles, de cochenilles, donc les insectes piqueurs-suceurs, qui, vous le savez, on en parle souvent, sécrètent par leur déjection ce qu'on appelle un miella, qui est un liquide sucré, qui sert également à certaines abeilles, notamment pour se nourrir, mais aussi pour fabriquer un produit qu'on appelle bien aussi le miella et pas le miel, et que vous pouvez trouver aussi dans le commerce. Alors moi j'ai essayé, je peux vous dire, c'est bizarre comme goût.
C'est bizarre.
Mais par exemple en Corse, que vous connaissez bien François, on vend communément du miella. Voilà, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, ça c'est un autre problème. Mais donc voilà, ces plantes mellifères sont celles qui produisent nectar et pollen.
Alors justement, ce nectar et ce pollen, ça sert à quoi aux insectes ?
Eh bien d'abord, surtout à les nourrir. Le nectar, c'est un liquide sucré. Donc c'est des glandes qu'on appelle des nectaires qui sont prélevés par l'insecte. Alors, vous allez dire, ah, c'est dégoûtant, mais c'est comme ça. Lorsque l'insecte mélange ce nectar à sa salive et aux sécrétions qu'il a dans son jabot, hein, c'est-à-dire il a une sorte de poche qui lui permet de, on va dire, de concentrer le nectar, eh bien, ce mélange-là, une fois qu'il va s'être déshydraté en partie, il va donner le miel. Donc, d'où le nom de plante mellifère. Donc, c'est les plantes qui permettent la production de miel par les abeilles domestiques. Je rappelle qu'en France, on a pratiquement 1000 espèces d'abeilles sauvages, dont beaucoup ne fabriquent absolument pas de miel. Et le pollen, de son côté, lui, est extrêmement important. Alors, pas trop pour nous, même si on trouve maintenant aussi dans le commerce du pollen, parce que c'est très riche en protéines. Et c'est la principale source de protéines pour les abeilles. Et vous vous rendez compte que la quantité et la qualité des protéines qu'elles consomment va déterminer la taille et la longévité même de l'insecte. D'où l'importance donc de cette, de ce pollen. Donc la ruche en a vraiment besoin, parce que aussi c'est riche en acides aminés. Monsieur Rekia va être heureux que je prononce ce nom, en antioxydants et en oligo-éléments et des vitamines. Donc voilà, ce sont les éléments nutritifs principaux pour les abeilles.
Et comment les insectes récoltent en fait toutes ces denrées précieuses, nectar et pollen ?
Alors, le nectar, l'abeille ou le papillon, parce que les papillons sont bien munis avec leur trompe. Souvent, le nectar se trouve vraiment profondément enfoui dans la fleur. Et ça, c'est aussi une stratégie de la fleur elle-même qui, en mettant la production de nectar au cœur même de sa corolle, c'est-à-dire vraiment au fond des pétales, va obliger l'insecte à pénétrer à l'intérieur de la fleur, à passer le long des étamines ou du pistil, c'est-à-dire les organes sexuels. Et quand il aura pris sur son dos, parce que vous avez pu remarquer que le dos de ces insectes pollinisateurs est toujours très velu, eh bien les grains de pollen se sont accrochés à son dos. Il arrive, il frotte ça sur le pistil, et qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il féconde la fleur. Mmh. Donc la production de nectar ne sert à rien à la fleur, autre qu'à tirer le pollinisateur. Et ça va très très loin, parce que même la forme elle-même de la fleur a évolué, ou on va dire coévolué, avec l'insecte. Et quand je disais que vous avez des fleurs, par exemple, en entonnoir, où le nectar est très très profond, eh bien vous avez certains insectes qui sont incapables de le pénétrer. Mmh. Vous avez même des fleurs qui doivent être déflorées, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles sont comme vierges, et il faut un bourdon puissant qui vienne casser une petite membrane, de manière à ce que la fleur s'ouvre sous le bourdon et lui donne accès à ce précieux nectar.
Ce qui est dingue, c'est que le bourdon sait qu'il faut qu'il casse cette membrane pour...
Non, il le sait pas.
Ah,
il le fait d'instinct.
Il le fait d'instinct.
Parce que lui, il est attiré par le nectar, l'odeur du nectar, le sucré du nectar. Mmh. Et il va y aller à fond, il va casser l'autre.
Oui, il se dit, c'est mon frigo, quoi.
Ah, mais exactement, il va chercher sa nourriture. Et il faut savoir donc que le besoin, notamment en pollen, d'une colonie d'abeilles est énorme, entre 20 et 40 kilos pour une ruche. Mmh. Donc ils sont en train de travailler en permanence, donc avec leurs pattes, elles vont brosser un petit peu les grains de pollen, et elles vont ajouter un petit peu de nectar pour former les fameuses pelotes que vous voyez sur les pattes et qu'elles rapportent à la ruche.
Patrick, pour terminer, votre sélection des fleurs mellifères incontournables à posséder dans son jardin.
Alors, la lavande, La bourrache qui est une plante très intéressante, très jolie, mais où les abeilles sont comme des folles là-dessus. Les centaurées, les coquelicots, la pervenche, la facélie. La facélie, c'est une très jolie fleur bleue avec qu'on met en engrais vert, par exemple. Les sauges. Alors les sauges sont marrantes parce que les sauges, elles ont un label qui sert de train d'atterrissage pour les abeilles. Et quand elles se posent sur le label, vous avez les étamines, ploum, qui tombent sur le dos et qui déposent le pollen.
C'est génial.
Ah, ouais, c'est très incroyable. Très bien fou. Alors les tournesols aussi, bien entendu. Les vipérines, ça vous connaissez peut-être moins, mais ce sont des très très bonnes plantes, notamment pour le midi de la France ou sur le bord de l'océan. Alors, n'oubliez pas tout ce qui est agrumes, les citronniers, tout ça, où on fait des très très bons miels avec ça. Dans le midi, l'arbousier est très très mellifère. Les bruyères, bien entendu, le laurier. Alors, il y a une plante qu'on n'imagine pas, mais le lierre attirent les abeilles. Bien. Les fleurs sont moches comme tout, mais elles sont très attractives pour les abeilles, appétissantes. Les piracantas qui sont en train de finir leur floraison, les seringas qui sont en fleurs en ce moment, qui sentent si bon, belles fleurs blanches, magnifiques. Le sureau, alors là, oui, Troène. Et puis, bien entendu, au potager, pourquoi pas. L'artichaut, la carotte, mais ça, il faut les laisser aller à fleurs.
Et oui.
Alors, l'artichaut, si vous récoltez pour le manger, il sert à rien pour l'abeille. Puis il faut laisser la fleur s'épanouir. Idem pour la carotte. La carotte qui est une bisannuelle, elle fleurit la deuxième année de culture. Puis toutes les plantes aromatiques. Thym, romarin, sarriette, tout ça, c'est très magnifique.
Il y en a beaucoup, vous l'avez compris.
Il y a plus de 200 plantes, voilà. D'ailleurs.
Dominique qui nous dit, dans mon jardin, je suis envahi d'abeilles et comme j'ai beaucoup de bourraches, vous en parliez tout à l'heure, qui sont assez envahissantes, elles adorent ça. Au passage, elles viennent aussi butiner les fleurs de tomates, courgettes, etc. Et c'est tout bon pour le jardin.
Oui, alors.
Voilà, Dominique a bien compris tout ça.
On ne va pas s'étendre, mais les tomates en ont pas besoin.
D'accord.
En fait, les tomates, elles sont ce qu'on appelle autogames, elles peuvent se faire féconder.
Mais malgré tout, les insectes peuvent venir butiner les fleurs de tomates.
Ils font ce qu'ils veulent, bien entendu.
Évidemment.
Alors, je veux dire quand même que du 13 au 21 juin, ça sera la semaine des fleurs pour les abeilles. Donc, une action qui va vous permettre d'obtenir dans les magasins gratuitement des sachets de graines de fleurs pour les abeilles, parce qu'on veut faire en sorte qu'il y ait 1 milliard de fleurs qui soient dans les jardins privés pour attirer nos abeilles.
Patrick, on revient dans un instant. Joël va nous parler de son citronnier. On retrouvera aussi la météo du jardinier, vos coups de cœur. Et Joël qu'on va accueillir dans un instant, vous pouvez nous joindre au 3216 pour poser vos questions jardin. 3216 ou bien l'appli RMC sur votre smartphone. Direct Studio, vous nous laissez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous rappeler. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, nous sommes de retour, 6h48, le week-end des experts, le jardin. J'ai toujours ce super barbecue, Beef Butler Smoker, grill charbon de bois à vous offrir. Profitez-en, c'est simple, il suffit de participer avec nous par SMS. Il est facile d'utilisation, pratique. Il y a aussi sa petite table qui vous permet de stocker vos ingrédients. Voilà, une petite table de travail, c'est bien pratique quand on fait un barbecue. Donc ce barbecue, nous vous l'offrons par SMS. Vous nous envoyez jardin au 732-16 dès maintenant. Attention, SMS surtaxé bien sûr. Jardin par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. Bonne chance. Avant de retrouver la météo du jardinier, c'est Joël qu'on accueille maintenant. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Bonjour Joël.
Bonjour Patrick.
Bienvenue.
Je tenais d'abord à vous féliciter pour vos bons conseils.
Merci.
Parce que nous sommes des amateurs et vous êtes d'excellents conseils.
Bah écoutez, je suis ravi. Je vais essayer de vous en donner un bon maintenant.
Voilà. Et alors,
qu'est-ce qui vous arrive?
Je peux faire une historique de ce citronnier, si vous le permettez,
oui.
Ça sera court. Et il était exposé en plein nord sur un balcon, sans soleil.
Dans quelle région?
La personne me l'a confié parce que je lui avais proposé une meilleure vie à mon domicile, dans une maison. Eh bien, je me suis trompé parce que ma négligence a fait que ce citronnier a connu le gel, la sécheresse, et peine m'est arrivée de le tailler en disant ben sa durée de vie a cessé. Eh bien, la nature fait les bonnes choses. Et ce citronnier s'est remis à faire des pousses. Et puis, par contre, je me suis aperçu qu'il y avait des doubles feuilles. Et il ne fleurissait plus. Par contre, l'étant stocké dans une véranda, il s'est développé et j'ai décidé de le mettre en terre, plein sud et à l'abri du vent. Et il s'est développé, mais alors magnifiquement, sauf qu'il ne produit plus de fleurs. Et à l'heure où je vous parle, je me suis aperçu en bas d'un rameau, trois fleurs. Qui me semblent être les mêmes qu'avant. Alors, est-ce que je ose espérer qu'il va produire de nouveau des fleurs et des citrons, ou dois-je envisager une greffe?
Vous êtes dans quelle région?
Dans l'Ardèche.
Mais dans l'Ardèche, on ne met pas les citronniers en pleine terre.
Alors, je vous l'accorde, je l'ai mis vraiment à l'abri du vent du nord, il est exposé plein sud. Il est dans un angle.
Oui, mais un citronnier, j'en ai déjà parlé très souvent sur l'antenne. À partir de moins 3 degrés, il y a des dégâts irréversibles sur un citronnier. Or, dans l'Ardèche, si je ne me trompe pas, moins 3 degrés,
oui,
en hiver, c'est rien du tout.
Rien du tout.
Donc, vous allez... Enfin, on a eu la chance cette année d'avoir un hiver exceptionnellement
peut-être
doux.
Peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup de moins 3 cette année en Ardèche.
Voilà, mais on va dire statistiquement, votre citronnier n'a strictement aucune chance de survie. Donc il faut bien le dire. Donc moi, ce que je ferais, évidemment, là, il est là, en pleine terre, en ce moment, en plus, il commence à vous faire des petites fleurs, ça veut dire qu'il est plutôt pas trop mal. Mais à la fin de la saison, c'est-à-dire, allez, avant la première gelée, vers le 15 octobre, vous allez l'arracher soigneusement,
le remettre dans un
très grand pot pour le faire passer l'hiver dans la véranda. Ensuite, l'année prochaine, au printemps, lorsque les gelées ne sont plus à craindre, à ce moment-là, vous pourrez le replacer exactement dans l'endroit où vous l'avez mis, parce qu'a priori,
Mais toujours dans ce pot, en fait.
Oui, dans ce grand pot.
Ouais.
Parce que la plante... Oui, parce que si vous dépotez, arrachez, machin, etc., c'est pas bon. Donc là, vous allez simplement faire un mouvement, mais si vous l'hivernez pas sous abri, il est fichu.
Et oui, bien sûr, en Ardèche, bien sûr, c'est pas la patrie du citronnier. Merci en tout cas, Joël, pour votre appel. La météo du jardinier, Patrick. On a eu une semaine alors idéale pour le jardinier, même s'il a fait très chaud. Que va-t-il se passer dans les jours qui viennent ?
Alors déjà, un dicton très intéressant. À la Saint-Didier, soleil orgueilleux nous annonce été joyeux.
Ah.
Donc, a priori, il va faire beau aujourd'hui. On peut espérer donc que les jours qui viennent vont l'être. Et d'ailleurs, si je veux simplifier la météo de la semaine, c'est soleil, plus encore soleil, avec des températures qui sont relativement basses par rapport à la semaine précédente ce week-end, mais qui, on va dire, vont gagner entre 1 et 2 degrés tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Alors, il y a une chose aussi au niveau des dictons qui est intéressante. Sème tes haricots à la Saint-Didier et prépare un grand panier. C'est le moment de mettre les haricots en terre. Nous sommes au top pour ces légumes-là, donc pensez-y. Pareil, on peut aussi semer les céleris, les chicorées, c'est bien. Tout ce que vous allez pouvoir faire en jardinage, c'est le bon moment. Donc, mon cher ami Christian, qui vient d'arriver dans le studio et que je salue, va vous parler de véranda. Eh bien, vous avez plus besoin de laisser les plantes à l'intérieur de la véranda. Nous avons cette semaine nous sorti les orchidées qui étaient. Alors, les orchidées, il faut qu'elles ne soient pas fleuries. Vous les sortez quand elles sont uniquement en feuilles, mais la plupart vont bien apprécier le fait d'être sous un petit couvert. De feuillage pendant tout l'été à l'extérieur, donc voilà des choses qu'on fait maintenant. Vous pouvez enlever évidemment toutes les protections des tomates, des melons, etc. pour leur faire bénéficier le soleil, mais comme je vous dis que c'est une semaine de soleil, soleil plus soleil, eh ben c'est une semaine d'arrosage plus arrosage plus arrosage.
Bon, d'accord, donc on arrose tous les jours?
Ah non parce que là la semaine dernière on a eu 29 à Paris. Alors il faut savoir une chose qui est intéressante sur cette semaine, c'est qu'on aura beaucoup plus chaud dans l'Île-de-France, par exemple, que sur la Méditerranée.
C'est dingue, ça.
On va avoir jeudi, je pense, 27-28 degrés sur l'Île-de-France. On aura 23, même dans votre Corse chérie. Vous voyez, donc il y a plus de chaleur dans le nord. Donc, ce qui veut dire aussi, comme on n'est pas tellement habitué à ça et ni la végétation, eh bien, il faudra plus arroser. On va dire que, à partir de 25 degrés, vous arrosez tous les deux jours. Quand la température dépasse 28, vous pouvez arroser tous les soirs.